Curieuses et curieux d'Ardèche et du multivers, bonjour! Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez l'onde curieuse de ce mardi 16 mai. Réglez vos montres, il est midi pile ou 17h si vous écoutez la rediffusion. Bonjour Quentin!
Salut Sophie!
Bonjour Sylvain!
Salut à vous!
Alors aujourd'hui, dans l'onde curieuse, on revient sur une aventure qui file des frissons, une aventure qui a commencé par 1336 jours de lutte. Celle des salariés de l'ex-usine Fralib près de Marseille. Pendant presque 4 ans, ils se sont opposés au géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire, que vous connaissez sans doute, Unilever, pour essayer de sauvegarder leur emploi chez eux. Et pendant ces 4 années, un rêve s'est dessiné, celui de reprendre l'usine sous forme de coopérative.
Et oui, c'est un rêve qui s'est réalisé il y a presque 9 ans, jour pour jour, après une décision de justice qui a intervenu le 26 mai 2014. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Gérard Cazorla, qui était délégué syndical, devenu président de la structure coopérative Scopti. À présent, Gérard Cazorla, que j'ai rencontré donc à la Biocoop pour la fête de l'anniversaire des gâteaux bio et leur passage en Scop. Du coup, merci à eux. Gérard Cazorla revient sur la lutte, mais aussi sur le fonctionnement d'une coopérative. Comment un groupe d'ouvriers se donne les moyens de créer et surtout d'entretenir les conditions de son rêve, à savoir détenir et utiliser l'outil de production.
Mais avant ça, on se prépare pour d'autres aventures culturelles. Voici l'agenda pour la semaine et le week-end à venir. Alors on prend un petit peu d'avance, on anticipe puisqu'il n'y aura pas d'onde curieuse ce jeudi. Jeudi férié, ni d'actu culturel vendredi. Mais on sera quand même là et on sera au festival Joyeuse Escale toute la fin de semaine. On vous en reparle à la fin de ces actus culturels.
Alors du coup, on commence par vous annoncer ce soir la tenue d'un concert au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Comment résister ? T'as raison, Sophie. C'est à 18h30 à l'église de Rosières, la chorale Scola Cantarelle et l'école du Péage chanteront à cette occasion et le concert sera diffusé en ligne pour les patientes et patients du centre Léon Bérard qui est à Lyon.
Demain et jeudi, c'est à la Blachère que ça se passe. Mais qu'est-ce qui se passe ? La Passerelle, le bistrot culturel de la Blachère, vous invite au théâtre avec Face Nord. C'est une petite forme courte qui dure 35 minutes de théâtre d'équilibre qui mêle la création sonore de Claire Lauzon, la manipulation d'objets et le jeu de Laurette Goujon. Ils vont donner corps et voix à cette fascination qu'ont les femmes et les hommes pour les sommets. Et c'est une petite forme théâtrale à partir de 6 ans.
Et à partir de 19h30, il me semble.
Oui, en horaire. C'est ça.
Le lendemain, le jeudi 18 mai, donc férié, la Passerelle remet le couvert et s'associe avec l'Instant Libre pour vous proposer une soirée pré-estivale pour guincher.
Au programme donc de jeudi à la Passerelle, c'est Kaleidoscope et son bal folk qui est pas trad du tout, puisque c'est guitare, accordéon et looper. Looper, vous savez, c'est ces petites boucles qu'on met en boucle, comme son nom l'indique. Avant de continuer à s'enjailler sur les rythmes colorés de DJ Pizzetto, et c'est restauration avec des bonnes petites choses dès 18h30, et puis le bal qui commence à 20h30. L'entrée, c'est 5€ minimum.
Oui, ça finance un peu l'Instant Libre qui s'est fait, qui a été obligé d'arrêter les événements à l'ancien Casse-Cabar, là, Joyeuse. Donc du coup, c'est une petite reprise d'activité, ça va être une chouette soirée. Et pour ce très long week-end, du coup, il y a une belle moisson de propositions qui proposent chacune à leur manière une version de l'aventure et du dépaysement.
Oui, c'est l'événement Parolons Festival, que vous connaissez si vous êtes des fidèles de Fréquence 7, qui se passe sur tout le territoire du Sud-Ardèche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça continue.
Et ça continue, ouais. Tu disais, la semaine prochaine, le festival se déroule à Lyon. La semaine suivante, c'est en Haute-Loire. Et demain soir, par exemple, Les Oubliés de l'île de Sable, qui retrace l'aventure extraordinaire d'un groupe d'esclaves survivant d'un naufrage en 1760 et laissés seuls sur un bout de terre à Madagascar, un gros bout de terre, pendant 15 ans.
Ils ont fait une coopérative pour s'en sortir, je pense. Et c'est au centre Le Bourneau à 20h45, mercredi. Mais il y a d'autres spectacles, par exemple, mercredi, ça se passe à Valgorge.
À Alba la Romaine jeudi, vendredi à Bidon et Saint-Étienne de Fontbellon, à Saint-Privat samedi, à Mercuet dimanche.
Bref, vous allez sur le site de Parole en Festival, vous faites votre programme vous-même, mais sachez que ici en Ardèche, c'est le dernier week-end du festival.
Et dans un autre registre, un peu de sport, bien-être et slackline, vous l'avez deviné, c'est le Ardèche Meeting 2023 ce week-end.
Oui, toute la journée, sous le soleil de Bamboo Beach, Ardèche, Slackline et la Filature s'associent pour vous proposer plein d'ateliers, des dizaines d'ateliers bien-être, cirque et sport. Et jeudi, c'est la soirée d'ouverture au Vence avec le spectacle en déambulation du collectif Janine Machine, le PD. Et le concert au Lavoir avec Radio Vivi, qui sera là d'ailleurs tout le festival. Vous pouvez aussi voir un film d'aventure au cinéma.
Les vendredis et samedis soirs, pour le vrai cœur de festival, festif, c'est spectacle et fiesta sous chapiteau à Bamboo Beach, du coup, le club de canoë là, qui est au bord de la grande ligne, juste avant de rentrer dans la zone des Vences, à partir de 18h, donc deux grosses soirées avec des artistes internationaux, Electric Jalaba, Bass Troopers, c'est de la dub, Mule, qu'on va découvrir tout à l'heure, et Morena Leraba.
Ouais, de beaux spectacles aussi avec des compagnies nationales, la compagnie La Débordante, le collectif Janine Machine dont on vient de parler, Encore en l'air et les Sanglés.
Ouais, plein de donc spectacles et concerts, quoi.
Ouais, et puis ça se termine en beauté et en hauteur avec la soirée de clôture à Ban dimanche à 21h, suivi du club de la Filature dans les écuries.
Ouais, je crois que c'est un spectacle sur une highline à, je sais plus, 150 mètres de haut. À revoir les détails d'ailleurs et les réservations sur www.ardèche-slackline.com /les-meeting/meeting-2023. Mais vous devriez vous en sortir.
Oui, maintenant on ne dit plus tout ça, on dit allez sur votre Google préféré. Et pendant ce temps-là, au même moment, se passe aussi un festival extraordinaire qui donne envie de tracer la route, d'embrasser son prochain, de boire un thé avec un vieux kirghize,
c'est la Joyeuse Escale, vous l'avez compris, la deuxième édition du festival de voyage et du voyage et de l'aventure, pardon, organisé par nos confrères de Allo la Planète, qui a lieu à Joyeuse. Ça commence demain soir, mercredi, et ça se termine dimanche.
Au programme, des rencontres avec des voyageurs, des cinéastes qui ont filmé leur voyage, des auteurs qui ont écrit sur leur voyage, des poètes qui parlent de
leur voyage,
des carnétistes qui ont croqué
leur voyage,
des gens qui se posent des questions avec des tables rondes sur
des voyages.
Oui, il y aura aussi des agences de
voyage
et des inventeurs de
voyage.
Et puis des concerts qui donnent envie
de se promener, de danser. Non, ah, de voyage, pardon.
Ah oui, de voyage d'aventure avec par exemple mercredi Paris-Brest, jeudi
c'est un duo de percussions.
Vendredi, Cascanzi, un bal folk, et samedi,
Paco Diablo B, que je ne connais pas.
Et donc, voilà, qui donne envie de voyage, d'aventure, sans voiture, en tout cas sans foutre en l'air la planète. C'est une super programmation, et Fréquence 7 donc sera sur l'événement avec la Caravane Studio pour animer une émission en direct du festival sur la place du 14 juillet. Jeudi, vendredi et samedi de 18h à 19h. Venez nous
et
voir.
Et oui, l'occasion de rencontrer vos voix de l'onde curieuse, puisque c'est Sophie qui animera les émissions du vendredi et du samedi. Et pour ma part, je serai sur place mercredi et jeudi.
Ça donne envie de musique.
Yeah.
Getaway de Meul, super, ça donne envie de danser, c'est hypnotique. On sera dans les années 70 à Berlin.
Ouais, c'est ça, va dans une cave berlinoise.
Oh oui.
Du coup, il joue au Ardèche Slackline, c'est vendredi, c'est ça?
Il joue au Ardèche Slackline, je n'en sais rien. Oui, probablement vendredi.
Et toi, tu penses aller les voir?
Mais je ne sais pas si je pourrai, puisque je
Ah oui.
serai au festival Joyeuse Escale à Joyeuse.
Ah, c'est au risque d'être. Là, les copains
Peut-être.
de Fréquence 7, on est sur tous les festivals en même temps. Moi, je serai sur un autre festival qu'on n'a pas annoncé, mais c'est quand même des copains. C'est le Crash Musette à la Voulte sur Rhône. Avec 2 soirs de punk rock, il y a Highlight Tribe, les Vulves Assassines, Krav Boka. C'est vendredi et samedi soir à la Voulte sur Rhône.
Waouh. Et vous, qu'est-ce que vous
Ça
faites? Vous restez dans votre canapé?
va être.
On enchaîne avec le sujet, donc l'interview que tu as fait de Gérard Cazorla. Tu nous en dis un
Ouais.
mot?
Oui, bah Gérard Cazorla, ancien délégué syndical des Fralib, du coup de Fralib, l'usine qui détenait la marque de l'éléphant, qui appartenait à Unilever, enfin qui a été rachetée par Unilever. Donc Unilever, on leur doit Lipton. Ils ont concentré leur chaîne de production à Gémenos, à côté de Marseille. Et en fait, après, ils ont décidé de délocaliser en Pologne. Les ouvriers voulaient pas de ça. Ils ont dit aucun boulon de cette usine ne quittera Gémenos et nous non plus. Et je vous propose d'écouter l'entrevue parce qu'il détaille tout ça. C'est un petit peu long, mais c'est très très intéressant. Scopti, c'est l'usine qui fabrique les tisanes 1336.
C'est ça, c'est les anciens Fralib. Donc, on a mené une lutte contre une multinationale Unilever qui a duré 1336 jours, d'où le nom de notre marque 1336 pour les thés et infusions en arôme naturel aujourd'hui.
Et oui, et c'est une des grandes luttes ouvrières de ces dernières années, en fait, et qui est un succès, puisqu'aujourd'hui, donc, l'usine est gérée par ses employés, qui sont, du coup, est-ce que vous vous considérez toujours employés?
On est des coopérateurs, puisqu'on a formé la coopérative en 2014, quand on est sorti du conflit avec Unilever. Et depuis, nous fonctionnons en coopérative, avec 58 coopérateurs, plus l'association Fraliberté, qui est coopératrice aussi. Donc 59 coopérateurs, et donc on fonctionne dans le cadre d'un fonctionnement coopératif et démocratique.
Si on reprend l'histoire à ses débuts, vous travaillez dans une usine de tisane française, une enseigne à la base française qui s'appelle L'Éléphant, que tout le monde connaît un peu, on l'a tous eu dans notre tasse un jour. C'était une usine familiale marseillaise. Racontez-nous tout ça.
C'est ça, ben, le thé de l'éléphant, il est né en 1896, la marque thé de l'éléphant, qui était d'une famille, issue d'une famille qui s'appelait Lazare et Digonnet, qui est plusieurs générations, jusqu'en 1967, où Ricard a racheté le thé de l'éléphant et a revendu dans les années 72, 1972, au groupe Unilever, multinational, qui, eux, avaient déjà la marque Lipton, et donc ce qui faisait Fralib, française d'alimentation et de boissons, avec l'usine de Marseille du thé de l'éléphant. Et il faut savoir que cette marque, le thé de l'éléphant, est une marque donc, qui est née à Marseille, je le redis, en 1896, mais qui est vendue et qui était vendue qu'aux consommateurs français. Aujourd'hui, il faut savoir que la marque de thé de l'éléphant est produite en Pologne et vendue qu'aux consommateurs français encore.
Et en fait, c'était ça le nerf de la guerre. Donc Unilever a racheté l'usine et après, c'est parti en vrille.
Et après, donc en 98, ils ont fermé le site du Havre, qui faisait le Lipton. Et donc, 52 familles sont descendues à Gémenos. Et on a travaillé avec la marque Lipton et Elephant dans cette usine.
À l'origine, c'était une marque, l'éléphant, qui produisait des tisanes à partir de produits naturels. Et c'était un peu les récoltes de thym et de tilleul de la région. Et ça a changé en s'industrialisant, en passant aux mains d'Unilever, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'était une entreprise qui embauchait beaucoup de personnes à l'époque. Je me rappelle que au début, dans les années 40-50, il y avait à peu près, pour une machine, il y avait 7 personnes autour. Ensuite, l'industrialisation a fait que, et l'automatisation a fait que, ensuite, quand on était à Gémenos, il n'y avait plus qu'une personne pour 3 machines. Donc, vous voyez un petit peu
D'accord.
l'écart au niveau emploi. Et donc, on rayonnait uniquement sur la région à l'époque. Et donc après, c'est devenu une marque nationale. Je suis rentré à l'usine en 1981. Et donc en 88, Unilever, c'était déjà Unilever. Unilever a décidé de fermer l'usine historique à Marseille pour la déplacer à Gemenos, parce qu'ils voulaient faire une usine européenne de thé infusion aromatisée. Et donc, j'ai suivi à Gemenos. Et donc, ensuite, je vous dis, il y a eu des regroupements avec le thé Lipton. Et on fabriquait jusqu'à 6000 tonnes de produits. Et on envoyait dans les autres usines d'Europe pour qu'ils fabriquent leurs sachets.
D'accord.
Ensuite, Unilever est passé de l'arôme naturel, où on était les seuls à faire. Hein, et ils sont passés de cet arôme naturel à l'arôme synthétique, c'est-à-dire chimique. Et là, donc, moins de main-d'œuvre, moins de coûts.
Ouais.
Et ensuite, ça leur permet aussi, quand on met des arômes chimiques dans du thé et des infusions, ça leur permet aussi d'économiser sur la base du thé ou d'infusion qui mettent de moins bonne qualité. Donc voilà, ils gagnent sur tous les tableaux.
Donc ils gagnent sur tous les tableaux, ils font des économies d'échelle, ils font des économies sur la main-d'œuvre. Et malgré cela, c'est en 2010 qu'on vous annonce une délocalisation de l'usine, une fermeture de l'usine.
C'est ça. Donc en 2010, lors d'un comité d'entreprise, ils annoncent la fermeture de l'usine pour la déplacer, pour envoyer nos productions en Pologne. Non pas parce qu'on n'était pas compétitif, mais on n'était pas assez compétitif pour les actionnaires qui en voulaient toujours un peu plus, quoi.
Okay.
Donc voilà. Et de ce fait-là, on n'a pas accepté parce que nous, on connaissait notre entreprise, qu'elle était rentable et profitable. Hein. C'était pas justifié de fermer une usine, ni socialement, ni économiquement. Donc on a d'ailleurs fait la démonstration avec nos experts du comité d'entreprise où notre usine était rentable, mais pas assez pour leurs actionnaires. Et donc on s'est opposé à cette fermeture, bien évidemment. Et on s'est battu, mais bon, quand on sait qu'une entreprise multinationale prend une telle décision, c'est compliqué de les faire revenir en arrière. Donc à la fois on se battait contre la fermeture, mais on a tout de suite réagi avec en montant un projet alternatif à la fermeture. Ce projet alternatif à la fermeture, il y avait plusieurs lignes qu'on avait définies, c'est-à-dire qu'on considérait, nous, que l'outil industriel devait rester sur place, qu'on devait le récupérer. On considérait aussi qu'on devait revenir à des arômes naturels et non plus artificiels. On considérait aussi qu'on pouvait inventer une forme juridique nouvelle, puisque ce n'était pas dès le début une forme coopérative qu'on imaginait. C'était, on voulait inventer quelque chose de nouveau, donc c'était peut-être utopique, mais c'était comme ça. On considérait aussi que les matières premières, notamment sur les plantes aromatiques, on pouvait se servir en France, donc c'était cultivé en France, au lieu d'aller chercher nos plantes en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, comme faisaient les grands groupes, on pouvait acheter sur le territoire français les plantes aromatiques. Il y avait d'autres grandes lignes aussi, on considérait qu'on pouvait travailler, on avait la compétence de travailler sans patron, sans hiérarchie, et au bout du temps, on a abouti à la coopérative, puisqu'on avait, on a compris qu'il fallait, on ne pouvait pas trop inventer d'une forme juridique nouvelle, donc c'était soit retomber dans le système capitaliste avec un repreneur, et ça on ne voulait plus, soit partir sur la coopérative qui était plus proche de nos valeurs.
Ok, là dit comme ça, en 5 minutes, ça a l'air d'avoir été spontané, immédiat et un succès tout de suite. J'imagine que ça vous a pris du temps et des concertations et beaucoup d'abnégation et d'écoute mutuelle. Là, comment ça s'est déroulé? Parce que 1336 jours de combat pour une équipe de salariés ouvriers face à un géant de l'agroalimentaire comme Unilever, ça a dû être semé d'embûches. Et je suis curieux de voir le processus qui vous a conduit petit à petit à réussir à reprendre en main l'outil de production.
Ben, le processus, c'est en fait le projet alternatif à la fermeture qu'on a bâti 3 mois après l'annonce de la fermeture, qui donnait les grandes lignes de ce qu'on voulait faire. Et petit à petit, ça a mûri dans les esprits. Donc ça n'a pas été simple, parce que ça a duré quand même 1336 jours, puisqu'on a, moi je considère qu'on a mené 5 luttes à la fois. Hein. On a mené la lutte syndicale parce qu'on était des syndicalistes aussi, avec une base syndicale CGT importante. On avait sur 182 salariés à peu près 90 syndiqués, donc c'était assez important. Et moi je pense que c'est la base qui a permis de réussir ce qu'on a réussi. Sans ça, sans cette base-là, on n'aurait pas pu obtenir la victoire qu'on a obtenue. Donc à partir de là, On a mené cette lutte syndicale, on a mené la lutte économique aussi, puisqu'avec nos experts du comité d'entreprise, on a fait d'ailleurs la démonstration que notre usine était rentable et profitable et qu'il n'y avait pas de raison de fermer une usine comme ça. On a mené aussi la lutte juridique, puisqu'avec notre avocat, on a mis en échec trois plans dits de sauvegarde de l'emploi, qui en fait sont des plans de licenciement, hein, tout le monde le sait. Donc ça, on les a fait reculer trois fois, on les a battus dans tous les tribunaux. Donc ce qui a permis d'être licencié une fois, réintégré, relicencié. Donc ça a été une bataille juridique aussi. On a mené aussi une bataille politique, puisque pendant les 3 ans et 8 mois, on est passé sur les échéances, toutes les échéances électorales dans le pays, y compris les plus importantes qui sont les présidentielles. Et donc là, on sait tous que quand il y a des éléments, des histoires comme ça, quand il y a des élections, ces messieurs viennent nous voir pour se faire voir des caméras et nous toucher la main. Ça fait bien. Donc nous, on leur disait, nous, on veut bien vous recevoir, mais il faut passer une heure dans notre bureau et regarder notre projet alternatif et voir comment vous allez pouvoir nous aider si vous êtes aux manettes. À un moment donné, il y a François Hollande qui est venu et donc on y a mis un petit caillou dans la chaussure, parce que quand il est venu la première fois, il n'était même pas candidat aux élections présidentielles, okay. Il était simplement candidat aux primaires des socialistes. Donc voilà, donc il a fait en plus des déclarations derrière, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et puis on a enregistré ses déclarations, et puis on l'a rappelé au bon souvenir à chaque fois qu'on pouvait, quand il a été président. Et ouais. Donc voilà, donc ça a été aussi une lutte politique. Et la dernière, que je pense aussi, ça a été une lutte médiatique, puisque par la médiatisation de notre lutte, on l'a rendue juste et légitime. Ça a même dépassé les frontières, et puis on a obtenu aussi avec ça une grosse, grosse solidarité qui nous a permis aussi de tenir dans les moments difficiles et qui existe encore aujourd'hui.
Et donc au moment de l'annonce d'Unilever de son plan social et de la délocalisation, vous convoquez, vous syndicalistes, une réunion vous réunissez tout le monde. Et en 3 mois à peine, vous avez commencé à échafauder un plan de bataille.
Ah oui, de toute façon, quand ils nous ont annoncé qu'il y avait un comité extraordinaire qui allait se tenir, on pensait qu'il y aurait un énième plan social. On pensait que la fermeture était possible, mais on ne l'espérait pas. Donc ensuite, quand ils nous ont annoncé la fermeture, tout de suite, on a informé les salariés qui nous attendaient à la sortie de cette réunion, parce qu'on savait que de toute façon, il y allait avoir une annonce. Et là, on a fait des déclarations, là aussi. Et je me souviens, la première déclaration qu'on a fait, on a dit « pas un boulon sortira de cette usine ». Ouais. Et bon, je peux vous garantir que pas un boulon est sorti de cette usine. Voilà. On a tout gardé, tout l'outil industriel. On a obtenu l'ensemble de l'outil industriel qui nous a été rétrocédé et des moyens financiers pour démarrer l'activité en SCOP.
On vous a proposé de partir en Pologne, j'imagine, de partir avec l'usine, et puis du coup, tout le monde a refusé.
Oui, on nous a proposé des reclassements en Pologne avec le salaire polonais de 500 euros par mois. Okay. Donc c'était une blague, quoi, parce qu'on pouvait, si on partait là-bas, on ne pouvait même pas revenir voir notre famille avec ce qu'on aurait gagné, quoi. Donc même le juge, dans un des plans sociaux qu'on a fait retoquer, a questionné la direction en disant s'ils étaient sérieux de nous proposer des postes en Pologne à 500 euros par mois.
Donc premier plan social en 2010, vous attaquez Unilever devant un tribunal administratif ?
Non, on l'attaque sur le TGI, le tribunal de grande instance de Marseille, qui considère que le plan social est illégal et le casse. Donc Unilever n'a pas eu le temps de mettre en application le plan social et donc de licencier les personnes. Donc il relance une deuxième procédure et à ce moment-là, on refait une tentative. Donc on considérait que ce plan social était encore illégal. Donc on l'a réattaqué au tribunal de grande instance à Marseille encore une fois. Et là, on a été débouté sur première instance, mais on a fait appel. Mais là, okay. C'est comme c'était pas suspensif, ils ont commencé à licencier le personnel. Et donc, le licenciement est intervenu au mois d'août. Et là, c'est la première occupation de l'usine. On a occupé du mois de début septembre jusqu'au 17 novembre, puisque le 17 novembre, on a la décision du tribunal d'Aix en appel qui... considère là encore le deuxième plan social illégal et donc nous conforte dans ce qu'on avait pensé que c'était illégitime de fermer cette usine. Et donc là, comme ils avaient licencié, ils réintègrent les gens.
Et la période de l'occupation d'usine, du coup, ça donne quoi ? Vous faites des rotations, il faut qu'il y ait quelqu'un 24 heures sur 24
Alors nous, on avait pris des dispositions dès le début, dès qu'ils ont lancé la fermeture le 28 septembre 2010, en disant, quand on a fait une déclaration de dire que pas un boulon sortira de l'usine, donc on a pris des dispositions pour être toujours présent dans l'usine, jour et nuit. Donc on faisait des rotations, on avait un planning où il y avait toujours des salariés présents à l'usine, dans le local du comité d'entreprise, pour surveiller les faits et gestes de la direction pour pas que nos machines s'en aillent.
Ok, et ils ont fait aucun mouvement dans ce sens, il n'y a pas eu un...
Mais ils ont tenté une fois, mais voilà, ils ne sont pas arrivés, ouais. Parce qu'on était vigilants et voilà, on n'a pas laissé faire.
Et donc après, donc, le deuxième recours en justice vous donne à nouveau raison, donc vous êtes réembauché, enfin vous retrouvez vos postes comme avant.
Alors pas vraiment, parce qu'on ne travaillait pas, hein, oui. On travaillait quasiment pas, mais on était payé. Donc voilà, c'est pour ça que nous, quand on parle de 1336 jours, c'est 1336 jours de lutte et non pas de grève. Ça a été entrecoupé de longues périodes de grève, évidemment, mais on a été aussi, pendant des certains moments, payé.
Par obligation, c'était une obligation de justice.
Oui, exactement, faite au patron. Puisque nos licenciements ont été annulés, donc il fallait qu'ils nous repayent.
Et du coup, Unilever a quand même retenté
une troisième procédure. Ah non, il s'arrête pas.
Dans la foulée, du coup, c'était...
Dans la foulée, il s'arrête pas et il relance une troisième procédure. Alors, entre-temps, ils avaient négocié avec un certain nombre de salariés en promettant des chèques importants, hein, de 60 000 euros à un moment donné, pour qu'ils quittent la lutte. Et donc, ça a marché sur un certain nombre, puisque bon, voilà, l'argent, c'est pas un problème pour les multinationales, ils l'ont. Et d'ailleurs, ils auraient aimé qu'au niveau syndical, on parle de l'indemnité de licenciement plutôt que de se battre sur l'emploi. On a pris la bataille la plus difficile, je dirais. Se battre sur l'emploi, c'est plus compliqué que de se battre pour avoir la meilleure indemnité possible, parce que des multinationales, ils ont de l'argent pour faire ça. Donc ils ont, malgré tout, sans qu'on discute d'argent, proposé 60 000 euros à certaines personnes pour qu'ils quittent la lutte. Sauf que la troisième procédure, on la gagne encore une fois. Et le juge estime donc que Unilever doit représenter un plan de sauvegarde de l'emploi avec la totalité des salariés, les 182 salariés, et il considère que les transactions qu'il avait faites étaient illégales. Donc qu'est-ce qu'ils font Unilever ? Ils ne respectent pas cette troisième décision de justice et ils proposent aux salariés qu'ils avaient signé des transactions de déchirer la première transaction et de rajouter 30 000 aux 60 000 qu'ils avaient déjà donné. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les emplois pour 90 000 euros.
Et du coup, donc ça n'a pas suffi à enrayer votre lutte. Il y en a quelques-uns qui ont accepté. Il y a eu...
Oui, ceux qui avaient déjà accepté la première fois, la lutte a permis qu'ils aient 30 000 euros de plus.
Hein. Voilà,
donc,
parfait.
Voilà. Mais nous, on n'a pas accepté et donc on a continué la lutte. Parce qu'on considérait qu'on était dans notre bon droit et que ce n'était pas possible de fermer cette usine. Et donc, voilà, donc là, une quatrième procédure a été ordonnée par la justice. Ouais. Parce que voilà, la troisième a été encore jugée illégale. Ils ont entamé une quatrième procédure.
Et pendant tout ce temps-là, vous continuiez d'échafauder ce que pouvait être l'avenir de cette usine gérée par les salariés.
Mais nous, en fait, le projet, ce qu'il y a eu de bien sur la longueur de la lutte, ça fait qu'on a mûri ce projet, on a bien travaillé avec des experts. On s'est rapproché de l'Union régionale des SCOP, PACA. On s'est rapproché d'entreprises coopératives qui fonctionnaient depuis des décennies, donc pour voir comment ça fonctionnait, pour voir un petit peu comment on allait gérer l'entreprise, hein, parce que c'est pas le coup de dire nous on savait produire les thés et les infusions, on savait réparer les machines, mais tous les postes périphériques d'une entreprise, c'est pas évident de les tenir quoi, quand on n'a pas la compétence, parce qu'on n'avait pas toute la compétence. Et donc, il a fallu là aussi qu'on ait des formations. Après l'accord de fin de conflit, donc on a obtenu de l'État une enveloppe de formation importante qui a permis de faire changer de métier un certain nombre de personnes pour pouvoir tenir ces postes périphériques à l'usine.
À quel moment est-ce que ça a basculé vers bon, cette fois on reprend en main l'outil de production et ce qu'on négocie et ce qu'on revendique c'est les clés de l'usine.
Mais pour nous ça a toujours été ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de basculement depuis le début qu'on a travaillé sur un projet alternatif à la fermeture. On a continué à avancer petit à petit. Quand on a signé l'accord de fin de conflit, on était prêt à redémarrer nous-mêmes, sachant qu'on avait un pôle de techniciens qui, pendant la lutte, a aussi entretenu les machines pour qu'elles puissent fonctionner rapidement, pour ne pas perdre les programmes informatiques.
Ouais.
Donc tout ça, en même temps que voilà, on luttait, mais on pensait au redémarrage de l'usine. On a toujours pensé au redémarrage.
Et alors, cette chronologie-là, du coup, en 2014, vous obtenez gain de cause définitif.
Alors, il y a eu une étape politique quand même qu'il faut noter, puisque ça a été un temps fort politique qui nous a permis de continuer. Hein. C'est que quand il y a eu les élections présidentielles et qu'Hollande est passé, donc là, c'était la deuxième occupation. Et là, il y a eu Montebourg qui était nommé ministre du redressement productif, qui, sa première visite a été chez nous et a fait évaluer par la direction départementale du travail les deux projets, c'est-à-dire le nôtre sous forme de SCOP et le projet d'une île verte, qui s'était mis d'accord, je veux dire, avec un marchand de frites qui est Cybelle, okay. qui aujourd'hui a fermé d'ailleurs, à Gémonos, pour contrecarrer notre projet. Voilà. Et donc, cette étude, pendant le mois de juin, a été faite par la direction départementale du travail, et on a été reçu ensuite à Bercy, par Montebourg, et c'est dans son cabinet qui nous a validé notre projet alternatif à la fermeture, donc sous forme de SCOP. Et donc, ensuite, il a donné l'ordre à la communauté urbaine de Marseille, de racheter des bâtiments et des terrains. Donc, ce qui nous permettait d'être des squatteurs légaux, si ouais. on peut dire. Okay. Et là, ça ne posait plus de problème. On n'avait plus peur que les forces de l'ordre viennent nous déloger ou que la justice nous embête là-dessus. Quoi. Voilà. Parce que c'est prix. Illégal d'occuper une usine, c'est clair. Donc voilà, ça nous a permis d'attendre la fin du conflit, je dirais, toujours dans l'usine et en travaillant au projet alternatif et en faisant... le forcing pour qu'on puisse en sortir quoi, de ce conflit. Et puis, le 26 mai 2014, on a pu avoir les conditions de signer un accord de fin de conflit, alors qu'il n'était pas suffisant pour nous, mais au bout de 3 ans et 8 mois, donc je pense qu'il y avait des conditions qu'on pouvait accepter pour en sortir. Sur les revendications qu'on avait, on en avait une qui était forte aussi, c'était de récupérer la marque Éléphant, parce que la marque Éléphant, c'est une marque, comme je disais, française. Des générations de travailleurs ont fait sa notoriété. Mmh. Et en plus, cette marque allait être délocalisée en Pologne pour être vendue qu'aux consommateurs français. C'était incroyable, ça. Et donc, on considérait que nous, elle devait nous revenir, cette marque. On leur demandait de partir avec Lipton et de nous laisser la marque Éléphant. Sachant que c'était pas utopique, parce que Unilever avait déjà fait une transaction comme ça quand ils ont fermé Roaco. Ils ont trouvé un repreneur dans le thé où ils leur ont donné les bâtiments, des machines, une marque de thé qui s'appelait Compagnie Coloniale, et une sous-traitance pendant 5 ans, dégressif au bout de 3 ans. Donc moi, je faisais partie des négociations, donc je sais de quoi en parler. Donc le fait de nous donner la marque Éléphant, ce n'était pas utopique, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait, donc ils pouvaient okay. le refaire. Donc ça, on ne l'a pas obtenu, et on n'a pas obtenu non plus de volume de production pour lancer la SCOP. Donc il a fallu qu'on reparte à zéro avec les machines-outils, puisqu'on a récupéré l'outil industriel, de l'argent au niveau de 3 millions d'euros pour démarrer la coopérative. Mais moi, je dis toujours, Unilever n'a pas créé les conditions pour que la SCOP réussisse.
Non.
Parce qu'ils me disaient, en fait, on leur donne de l'argent, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, hein, les multinationales. Mais ce sont des salariés, des travailleurs, et ils ne savent pas gérer une entreprise. Et donc, au bout de 2 ans, ils n'y seront plus. Bon, malheureusement, ouais. pour eux, au bout de 8 ans, ben, on est toujours là et on continue.
Alors, donc, il y a 9 ans, vous obtenez gain de cause. Donc, 26 mai 2014, c'est le 1336e jour. Ouais. Et vous vous retrouvez avec à peu près 3 millions d'euros disponibles pour recommencer, sans la marque L'Éléphant.
Avec ce qu'ont mis au capital les coopérateurs, les 58 coopérateurs, on avait un peu plus de 3 millions d'euros pour démarrer l'activité, mais pas de volume. Et donc, il a fallu aller chercher des volumes, créer une marque, la mettre sur le marché. Et les spécialistes qui nous disaient qu'il faut à peu près 10 ans pour qu'il y ait une notoriété de la marque qui se fait quand c'est une marque nouvelle qui se met sur le marché. Donc, on est allé tout de suite voir pour avoir des volumes. On s'est retourné vers la grande distribution pour faire leur marque de distributeur. Okay. Et donc là, on ne s'est pas trop trompé, puisqu'on avait une belle usine, une usine que tout le monde connaissait. Et donc là, on a eu de suite trois contrats. Et donc, on a pu avoir des volumes pour faire travailler les coopérateurs et un peu les payer aussi. Voilà.
Okay.
Donc il fallait qu'on ait le temps que notre marque se développe.
Et alors, petit à petit, ça a pris. Vous avez réussi. Donc, vous avez recommencé à produire. Vous avez réussi à relocaliser la production avec des ingrédients bio français.
Oui. Alors, on a fait deux marques. En fait, on a fait la marque 1336 et la marque Scopti en bio. Et là, ça a été aussi un de nos projets dans le projet alternatif à la fermeture. C'était qu'on voulait travailler avec les plantes aromatisation françaises. Et donc, on s'est tourné vers tout de suite le tilleul des Baronnies, dans les Baronnies, hein, à Drôme, où on a travaillé avec des producteurs de tilleul pour récupérer de la matière première et pour pouvoir fabriquer en France, quoi, avec des matières premières françaises. Et on a aussi travaillé avec des grossistes qui, eux, travaillaient eux-mêmes avec les producteurs en France.
Ouais.
Donc tout ce qui est sur la marque Scopti 1336 bio sont des plantes aromatiques issues du territoire français.
Okay.
Donc ça, on a voulu développer les circuits courts aussi.
Et vous avez rencontré, il y a eu un soutien, il y a eu une solidarité des producteurs et des cueilleurs pour vous aider à redémarrer ?
Oui, absolument, parce que là aussi, il y a eu un élan de solidarité important. Où il y a des cueilleurs qui ont fait de la cueillette solidaire. Et aujourd'hui, toujours, on est avec 9 à 10 producteurs de tilleul qui ramassent pour nous. Alors l'histoire du tilleul, quand même, je voudrais juste faire une parenthèse, c'est qu'en France, il y a 30-35 ans de ça, quand les multinationales et les gros groupes acheter en France la matière première, c'était 450 tonnes qui se cueillaient en France de tilleul. Aujourd'hui, c'est plus que 10 à 15 tonnes.
Okay.
Donc ça a été un coup sur la filière qui s'en est pas remis d'ailleurs. Et donc nous, modestement, on a dit pourquoi pas essayer de relancer cette filière-là. Et chaque année, ben, on cueille du tilleul dans les baronnies et on fabrique le tilleul des baronnies.
Vous avez relancé la filière du tilleul.
Oh, ce serait un grand mot de relancer, non, mais on a œuvré pour qu'il y ait... D'ailleurs, il s'est créé le syndicat du tilleul des baronnies avec nous, hein, il y a à peu près 10 années. Donc voilà, donc, si ça peut servir à relancer cette filière, pourquoi pas, bien sûr, on serait fiers.
Et là, du coup, 9 ans après la reprise de la production, vous atteignez vos objectifs les uns après les autres ?
Alors, on est monté en puissance depuis le début. Hein. On est parti avec un chiffre d'affaires la première année à peu près à 480 000 euros.
Ouais.
C'était très peu. On est arrivé en 2020 jusqu'à 4 200 000 euros. Donc c'était une progression constante. On est arrivé à l'équilibre en 2020. 2021, on a été aussi bénéficiaire, très légèrement.
Ouais.
Par contre, en 2022, on a souffert, vu les circonstances et l'inflation et tout ce qui se passe. Donc on a un peu souffert en 2022, mais on espère repartir un petit peu en 2023 et continuer à progresser.
Donc là, c'est parti, vous êtes 58 collaborateurs,
éditrices. 59 avec l'association Frères Liberté coopérateurs,
ouais.
Et on est 37 salariés. Et ça tourne, je crois qu'on a fait la démonstration que des travailleurs sans hiérarchie, sans patron, ben, pouvaient gérer une entreprise, et c'est pas donné qu'à ceux qui ont fait l'ENA ou ceux qui ont fait les grandes études de pouvoir travailler. Donc je pense que ça, on ne peut pas nous l'enlever. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on y est. On a fait la démonstration que c'était possible. Donc, un nouveau choix de société est possible. Ça, c'est clair qu'on en a fait la démonstration.
Donc, une usine gérée par les ouvrières et les ouvriers où tout le monde occupe un rôle avec la conscience de ce qui doit devenir. Quoi.
Oui, puisque les prises de décision se font en assemblée générale, qui est souveraine, nous, dans notre fonctionnement. Et donc, nous-mêmes, on a... choisi la politique salariale, on s'est fixé nous-mêmes nos salaires, le choix des marques, l'organisation du travail, tout ça se fait donc par des prises de décision communes,
ouais.
Et toujours dans le débat et les idées, les échanges des idées, chaque personne pèse une voix, hein, donc voilà, chez nous, dans les statuts, je dirais, bateaux d'une coopérative. C'est l'exemple que je veux citer aussi, c'est que quand il y a égalité dans un vote, le vote du président compte double. Nous, on ne l'a jamais appliqué. On a mis dans nos statuts que le vote du président compterait une voix comme chacun d'entre nous.
Okay.
Alors, on a un conseil d'administration, bien sûr, qui est de 11 membres, où on se réunit chaque mois, hein, régulièrement. Mm-hmm. De ce conseil d'administration, pardon, on a sorti un comité de pilotage qu'on appelle, donc avec 3 personnes, qui peut être élargi selon les sujets par des compétences en interne voire en externe. On prend des décisions qui sont diffusées par mail et qui vivent pendant 24-48 heures. S'il y a des retours, ben, on regarde. S'il n'y a pas de retour, on considère qu'elle est adoptée.
D'accord.
Sauf qu'on la valide toujours à la fin malgré tout, avec l'Assemblée générale des coopérateurs.
D'accord. Donc,
voilà.
Okay.
Ça nous est arrivé qu'une fois, on aurait pris une décision qui n'avait pas été validée par l'ensemble des coopérateurs, et donc il a fallu la détricoter et en faire une autre. Mais nous, ce qui est souverain, c'est bien l'Assemblée générale des coopérateurs.
D'accord. Avec une politique de majorité ou d'unanimité ou...
Non, majorité.
Donc, majorité.
D'unanimité, hein, on ne pourrait pas y arriver. Je ne crois pas.
Il y a encore des niveaux à l'utopie alors qu'on n'a pas atteint.
oui, c'est clair. Non. Puis on est des êtres humains et donc on a nous aussi nos problèmes. C'est pas la maison des bisounours. Hein,
oui,
chez nous, on a aussi des problèmes humains, on a des problèmes relationnels des fois. Mais on arrive à trouver des consensus par la majorité et ensuite on applique les décisions qu'on prend.
Et la discussion, quoi.
Et le débat et puis la vérité. Parce qu'on doit se dire les choses le plus transparent possible. Que ce soit de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, on doit les dire.
Ouais.
Même si ça fait, des fois, ça atteint le moral ou quoi.
Ouais.
Mais on se doit d'être transparent et de dire ce qui se passe exactement pour qu'on puisse prendre nos décisions en toute connaissance de cause.
Et oui, la prise de décision égalitaire en coopérative, une personne égale une voix, ça a l'air assez logique comme ça, et pourtant notre univers capitaliste nous fait un peu oublier notre capacité à l'autogestion.
Ouais, en tout cas, merci pour cette interview qui était très attendue.
Ouais, ça fait un moment.
Restez sur fréquence 7 pour toute la journée. À 15h, c'est le Telex. Vous pouvez déposer vos annonces au 04 75 93 30 25.
À 17h, on rediffuse donc cet entretien avec Gérard Cazorla dans L'Onde Curieuse.
À 18h, c'est Polémix et la voix off avec Radio Manif, un 1er mai historique.
Mais enfin, on n'a pas pris la Bastille non plus, hein, mais soit, il y avait du monde dans les rues. Et à 21h, Metal Zone.
Avec la rediff de l'interview du groupe Otargos. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Quentin, merci Sylvain. La prochaine Onde Curieuse, donc, c'est lundi prochain.
Et on se retrouve sur le festival de la Joyeuse Escale. Toute cette fin de semaine, vous ne pouvez pas rater la Caravane Studio, elle est verte. Voilà, vert pomme.
Jaune.
Pomme jaune, ouais.
Jaune.
Ouais, jaune.
Vert et jaune.
Ouais,
vert
c'est ça. Jaune. Caméléoné. Et ben on y sera de mercredi jusqu'à samedi soir. À tout bientôt.
À très vite.